Retour en question d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier et retour sur la semaine politique écoulée comme chaque mercredi. Donc voici quelques sujets qu'on a retenus pour vous. François Legault nettoie sa page Facebook. Un député caquiste se retire du caucus de son parti et Denis Coderre, candidat à la mairie de Montréal. Je parle de tout cela avec Nick Payne, analyste politique. Bonjour Nick.
Bonjour Jean-Philippe.
On commence avec j'arrive pas à dire ce mot Facebook aujourd'hui, je dis Facebook.
Ah, ben pourquoi pas?
Ben, disons FB, c'est plus simple.
Oui, tiens, ben oui, certainement, l'entreprise de M. Zuckerberg.
Zuckerberg, oui, c'est ça, la montagne de sucre, littéralement. Oh. Donc François Legault nettoie sa page FB, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, c'était une publication du premier ministre, je pense, samedi matin, qui nous apprenait cette nouvelle. Monsieur, alors, je ne sais pas si c'est vraiment écrit par François Legault, mais c'est dans un français québécois très simple, à la François Legault. Je le dis parce que c'est vraiment la manière, la méthode, la marque de commerce Legault, hein, la simplicité, la proximité. Donc, c'est écrit de façon assez candide, simple et directe. Et Monsieur Legault dit... je paraphrase, hein, mais c'est vous pouvez vous fier sur moi, c'est pas mal ça. Il se dit, quel beau samedi matin, calme et paisible. Malheureusement, sur ma page Facebook, c'était comme ça autrefois, mais ça ne l'est plus. Désormais, dès que je m'exprime, j'ai droit à une avalanche, dit-il, ça ce sont ses mots, de d'attaques disgracieuses, obscènes, violentes, d'invectives, d'insultes et tout le reste. Ah, vous voyez un peu de ce dont il parle. Bien sûr, il parle de l'espèce de meute de lyncheuse des réseaux sociaux. Mais il dit que ça devient à ce point un problème que désormais, je vais nettoyer ma page Facebook de tous ces immondices et aussi, et là je le cite, des menteries comme les théories du complot. Hein? Il ajoute ça. Il dit parce que là, malheureusement, vous ne pouvez plus vous exprimer sur ma page quand vous venez pour faire une critique constructive ou pour m'encourager. Il dit je ne parle pas de la critique. Je n'ai rien contre la critique. Si je voulais être à l'abri de la critique, je ferais autre chose que de la politique. Mais là, on parle davantage de propos violents, déplacés, obscènes. Encore une fois, il reste. Alors,
la question, la grande question.
Ça, ce reportage, cette sortie sur des élus là qui quittent la politique parce qu'ils en ont assez de ce climat de violence verbale. Pardon, je vous ai interrompu.
Mais il y avait aussi dans la presse ce matin, il y avait un article sur des députés ou des ministres fédéraux, Trudeau y compris, qui subissaient des menaces, des insultes et tout ça sur Facebook aussi ou dans la rue. Je veux dire, est-ce qu'une parole se libère? Est-ce que la pandémie fait que les monstres qui étaient tapis, qui sont toujours là dans le cœur de l'homme et de la femme, il faut préciser, les deux sexes, est-ce que ces monstres-là sortent à la faveur d'une pandémie, je veux dire? Ou est-ce que c'est un phénomène, comment dirais-je, les gens étaient vertueux auparavant et sont devenus vicieux aujourd'hui?
Oui,
les gens, pas tout le monde, évidemment.
C'est un sujet, qui est chargé de malaise, hein, parce que... au fond, on traite aussi beaucoup, disons-le, enfin, je vais le dire franchement, Jean-Philippe, mais de l'imbécilité, hein, quelque part. Mmh. C'est plate, mais moi, et vous avez dû en lire aussi des commentaires hallucinants sur les réseaux sociaux. Parfois, ce sont des gens qui sont par ailleurs d'accord avec nous ou qui défendent un point de vue auquel on adhère, une critique de l'action gouvernementale ou de la parole de tel ou tel député. Jusque-là, ça va, sauf que ils emploient des termes tellement déplacés, dépourvus d'humanité, de d'empathie ou de respect, qu'on se dit, mais ma foi, sur quelle planète vivent ces gens? Et là, on réalise depuis un certain moment, on réalise depuis longtemps, Jean-Philippe, mais au cours de la pandémie, on dirait que ça s'est décuplé, qu'il y a une part énorme, ou en tout cas considérable, de gens qui, comme ça, n'ont pas de façon, pas de manière et une espèce de violence là dans le propos. Seulement sur les réseaux sociaux, hein, faut-il le dire, ça paraît beaucoup moins dans la vraie vie. Alors, est-ce que c'est le révélateur de quelque chose? Est-ce que nous sommes à une époque où, où la perte d'un certain nombre de repères moraux, hein? Il y avait la religion autrefois qui nous commandait de bien nous comporter et d'aimer notre prochain. Est-ce que on a perdu quelque chose en évacuant la religion, mais sans pour autant remplacer le code moral ou après sans le maintenir? Je pense que ces questions-là se posent et on ne se les pose pas beaucoup à travers
ça. J'ai souvent eu l'impression que ici comme ailleurs, il y a beaucoup de gens dans la population qui n'ont pas voix au chapitre, ils n'ont pas de tribune. Évidemment, c'est pas à chacun d'avoir sa propre tribune, mais les médias sociaux permettent cela. Mais très souvent, ils sont vilipendés par un discours moralisateur véhiculé par l'air ambiant, soutenu par les médias, par beaucoup de gens de l'élite. Je veux pas être populiste en disant ça, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent jugés, pas personnellement, mais en fonction de leur croyance, de leur façon de vivre, et qui, peu à peu, sont, je dirais pas déshumanisés, mais placés dans une sous-classe humaine, ou une classe sous-humaine plutôt, traiter quelqu'un de délinquant, se comporter comme un délinquant, à la faveur d'une pandémie, des médias sociaux. Il y a une conjonction de plusieurs astres dans cette émergence de cette violence verbale.
Oui, oui, non, c'est ça qui n'est jamais, à mon avis, justifiable ou justifié, mais qui peut s'expliquer cependant.
Et, oui, tout à fait, oui.
Pas toujours par l'imbécilité, non, vous avez raison. Il y a aussi une partie de la population qui n'est pas nécessairement portée vers les propos violents, obscènes et tout le reste, mais qui néanmoins...
Mais qui est excédée, qui est peut-être excédée.
Oui, qui est excédé, qui trouve qu'une certaine caste médiatico-politique lui fait la morale sur le racisme, par exemple. Là, bon, ça c'est vrai aussi. Maintenant, je pense qu'on peut traiter... Les deux questions sont interreliées, mais elles peuvent aussi être prises indépendamment l'une de l'autre. La question d'un strict minimum de bonnes manières en société se pose tout de même aussi.
C'est vrai.
Indépendamment de ça, il dit des choses... invraisemblable, je fais beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il est vrai que les politiciens, les journalistes aussi, et par ailleurs, des fois aussi, monsieur tout le monde, hein, entre eux, je vous dirais, Jean-Philippe, que chez les, par exemple, sur les pages très fréquentées par les gens qui sont critiques des mesures sanitaires et aussi par les théoriciens du complot, entre eux, ces gens-là sont très, très, très... dur aussi. Hein?
Ne soyez pas sexiste, monsieur et madame tout le monde.
Oui, madame toute la
monde. Toute la monde, si vous voulez, oui, toute la monde aussi. Hein? restons avec François Legault. Il y a eu une question, donc, avec un député caquiste qui a dû se retirer du caucus de son parti parce qu'il est sous la loupe de l'UPAC, je pense, non?
Oui, et là, problème d'ordinateur, je n'ai plus son nom sous les yeux, mais peut-être que vous...
Louis-Charles Thouin.
Voilà. Il occupait des fonctions quand même relativement importantes, là.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, il est démissionné, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a été question déjà la semaine dernière. Son nom a été soulevé parce qu'il était sous enquête pour une affaire de dézonage. Il fut maire
à la Naudière, oui.
Oui, autrefois, et c'est dans le cadre de cette fonction-là, je pense, il aurait posé certains gestes qui sont sous enquête aujourd'hui par l'UPAC. Alors, la semaine dernière, François Legault disait « Non, il n'y a pas de conflit d'intérêts, ça suffit, je défends M. Thouin ». Et là, ça a changé, de nouveaux éléments sont sortis, François Legault n'a eu d'autre choix que d'avoir, comme dirait Jack Meeting, une conversation avec son député. Et suite à quoi, le député s'est retiré du caucus caquiste. Qu'est-ce que ça nous montre, cette histoire-là? Ça montre plusieurs choses intéressantes. La première étant, la plus évidente, là, étant que c'est beaucoup plus facile de laver plus blanc que blanc quand on est dans l'opposition et se faire élire au nom à l'enseigne de la morale. On se souvient que la CAQ avait M. Duchesneau comme candidat pendant un bout de temps. Sinon, comme élu, est-ce que je me trompe? Pardon, la mémoire me fait défaut, mais toujours est-il que quand on est associé à Jacques Duchesneau, évidemment, alors là, vraiment, on lave plus blanc que blanc. Mais, une fois rendu au pouvoir, là, vous avez le cas Fitzgibbon qui ne finit jamais. Encore aujourd'hui, M. Fitzgibbon est dans les manchettes pour des questions d'apparence, de conflit d'intérêts. C'est toujours la même chose. Et là, maintenant, vous avez ce député qui lui aussi, souffre d'apparence devant des favorables, si j'ose dire. Alors, et là, tout à coup, c'est pas mal plus compliqué. M. Legault soudainement trouve que la présomption d'innocence est importante dans ce domaine-là.
Alors, justement, même
si je... Il a fini par se débarrasser de M. Touin, en tout cas, temporairement.
Ça pose la question de la transparence en politique. Je veux dire, l'exercice du pouvoir, idéalement, il faudrait qu'on soit tous comme Solon d'Athènes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il faudrait qu'on soit tous comme Robespierre avant qu'il ne s'amuse avec la guillotine. Il faudrait qu'on soit tous comme Gandhi, qui n'a jamais tué une mouche de sa vie. Je veux dire, c'est placer la barre un peu haut, non? Pensez-vous qu'on veut laver, vous, c'est votre expression, pensez-vous qu'à force de laver plus blanc que blanc, il n'y aura plus personne qui va diriger une ville, un pays, une province, enfin un empire? Chacun aura un squelette dans le placard quelque part.
Oui, où on aura des gens qui n'ont rien vécu, qui n'ont pas de carrière, ou qui sont, des professeurs d'université qui n'ont pas été dans le monde des affaires, par exemple, qui n'ont pas été en politique, justement, parce que la politique, c'est pas toujours... il y a toutes sortes de jeux de coulisses. Alors, il est vrai que nous sortons de l'époque libérale avec les scandales sur la collusion, la corruption dans le monde du financement des partis politiques et de la construction. Bon, alors, c'est vrai que là, on a vraiment eu un coup d'œil un peu dégoûtant sur... le copinage, les amis, les retours d'ascenseur, c'était trop sans doute. Mais plus largement, nous sommes dans une époque où la morale, on a l'impression que le politique est un peu discrédité. Les gens sentent que les politiques ont moins d'envergure, moins de pouvoir qu'avant. Ce sont les multinationales, c'est des organisations supranationales qui décident de nos destins souvent. Et donc, on dirait que tout ce qui nous reste pour apprécier, juger la qualité des hommes et des femmes politiques, c'est la morale. Et là, il faut quand même se demander si c'est une bonne chose d'être dans un monde où la présomption d'innocence, justement, n'existe plus pour les politiciens.
Nous sommes tous des coupables.
Oui, c'est ça.
On est tous des coupables potentiellement. Ça m'amène au troisième sujet. Denis Coderre a sorti son livre aux éditions de la presse, Retrouver Montréal, de points qualité de vie, qualité de ville. Beau jeu de mots, qualité de vie, qualité de ville. Retrouver Montréal, évidemment, bon, il est enfin candidat, donc évidemment, on lui a fait un tapis rouge. Retrouver Montréal, et là, encore une fois, il va falloir quelqu'un de plus blanc que blanc, non?
Oui, c'est drôle que vous fassiez ce lien entre la morale et Denis Coderre, parce que s'il en est un qui a... Monsieur Coderre, pendant tout le scandale des commandites, on se souvient que c'est un libéral de l'ère et de la famille de Jean Chrétien, qui a été proche de toutes sortes de personnes nommées ici et là, et salies et parfois condamnées dans le scandale des commandites. Et on a l'impression que les balles lui sifflaient autour des oreilles. Vous savez, un peu comme dans cette scène de Pulp Fiction où les deux policiers se font mitrailler et comme par miracle, toutes les balles rentrent dans le mur de plâtre derrière eux, mais aucune ne les atteint. C'est un peu ce qui est arrivé. Denis Coderre est un peu un miraculé de la politique en ce sens-là. Donc, effectivement, c'est toujours drôle de le voir se placer comme celui qui a fait le ménage dans l'administration corrompue à Montréal. Quoique, c'est vrai en même temps, après l'ère Tremblay, Applebaum.
Ça pouvait pas être pire que l'ère Tremblay, non, je pense.
Non, mais en même temps, oui, c'est ça. C'est difficile de faire pire.
Moi, j'aurais fait un meilleur... peut-être, moi ou vous, n'importe qui d'autre aurait fait un meilleur maire. Je sais pas, moi.
Oui, que Gérald Tremblay, c'est pas très gentil pour Gérald Tremblay, mais du point de vue de la... Oui, on avait l'impression que M. Tremblay ne contrôlait plus ce qui se passait dans le...
Oui, tout à fait.
Mais donc, dans le cas de Denis Coderre, oui, il y aura assurément la question de la morale. Elle se pose... elle n'est pas tellement dans l'actualité à Montréal ces jours-ci. Personne ne pense que Valérie Plante et Projet Montréal ont instauré un système de corruption. On peut les blâmer toutes sortes de choses, mais pas de ça. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Denis Coderre, c'est qu'on sent, je sais pas si vous avez cette impression, Jean-Philippe, mais on sent la machine, les communicants. Ce livre a été... C'est un exercice sérieux, hein? Et c'est bien de voir ça en politique au Québec, et même municipal. Quelqu'un qui... Il lance un livre qui va se vendre 29,95 dans les librairies et qui propose quelque chose, hein, qui parle vraiment d'un projet politique. C'est fort intéressant. Mais au-delà de tout ça, monsieur, on sent qu'il y a une rivalité là qui s'installe, une guerre qui s'installe entre les élites économiques, les chambres de commerce, le pouvoir économique traditionnel à Montréal, qui va probablement se ranger derrière monsieur Coderre. Et Valérie Plante et son équipe qu'on voudra montrer comme, non sans raison, il faut dire, comme les idéologues de gauche qui nous mettent des pistes cyclables partout qui peinent à sortir Montréal d'une difficulté économique due notamment à la crise sanitaire, évidemment.
Il me semble qu'il y a aussi, je ne vous contredis pas du tout, Lana Payne, mais il me semble qu'entre la vision de Coderre et la vision de Plante, il y a un fossé. Coderre veut... Il ne s'occupe pas de la petite intendance. Il veut que Montréal redevienne une grande métropole, qu'elle rayonne, qu'elle brille, qu'on en parle à travers dans l'univers entier. C'est l'homme des grands projets. Valérie Plante est davantage la femme de la gestion quotidienne, la femme des pistes cyclables, celle qui a à cœur la santé de ses citoyens. On a vraiment deux. C'est pas une critique que j'aimais contre l'un ou l'autre, mais c'est qu'on a vraiment deux. Il y en a un qui veut Think big, comme dit Elvis Gratton, qui veut penser grand, et l'autre qui veut penser immédiat.
Oui, c'est ça. Ben, les idéologues, on peut quand même dire que Projet Montréal est dans cette catégorie, dans une certaine mesure, oublie parfois de vendre du rêve.
Tout à fait.
Ils sont très, très branchés sur leur idéologie, justement. Ils sont dans un esprit de combat pour la mener à bien la mettre en pratique. Alors évidemment, ça s'incarne ici par les... je reviens aux pistes cyclables, mais il y a autre chose, bien sûr, là. L'environnement, de façon plus large, dans le cas de Valérie Plante. Et M. Coderre, lui, là-dessus, marque des points, évidemment. Il propose du rêve, il propose du prestige, l'international. C'est vrai que ça, c'est un point faible chez Valérie Plante. Alors, est-ce que vraiment, dans la vraie vie, il y a une différence à ce point grande entre les deux candidats sur cette question-là? Ce n'est pas sûr du tout. Ce qui est un peu étrange, par ailleurs, c'est que Anne Hidalgo,
à Paris,
de Paris, signe, si j'ai bien compris, une préface ou un bout de texte dans le livre de M. Coderre, ce qui est très curieux parce que Mme Hidalgo est elle aussi associée à la gauche progressiste des pistes cyclables et de l'environnement. Et elle a déjà travaillé de très près avec Mme Plante aussi. Donc, il faudra lire ce qu'elle raconte, mais moi, ça allume un voyant là sur le tableau. J'ai hâte de voir ce qu'elle fait dans le quel rôle elle joue dans le grand plan Coderre.
Mais alors,
oui.
Il nous reste 2 minutes et demie, malheureusement, ça passe très vite en bonne compagnie. Et la pandémie, alors évidemment, les variants se répandent de plus en plus. On attend aujourd'hui à 17h, donc à 5h cet après-midi, l'équipe habituelle va faire son point de presse et va annoncer des mesures, d'autres mesures de restriction, notamment en zone, en région. Il y a 5 régions qui sont assez préoccupantes. Vous dites quoi de ça, Nick Payne?
Ben, on se demandait ensemble, Jean-Philippe, tout récemment, si le gouvernement Legault, en annonçant un certain relâchement là dans les mesures sanitaires, tout récemment, on se demandait si on avait bien retenu les leçons des déconfinements précédents. On se fie beaucoup, on commence toujours par se fier à la discipline, à la volonté, à l'altruisme, au sens du devoir des Québécois, puis hop, les cas explosent, et là, finalement, on resserre la laisse. J'ai l'impression que c'est exactement ce qui vient encore d'arriver. Ça m'étonnait, moi, un peu, ce relâchement, alors qu'on savait que les variants se répandaient rapidement. Pardon, hein, je sais que je heurte des gens quand je dis une chose comme ça. Il y a des gens qui sont vraiment, qui en ont soupé, là, des mesures sanitaires. Mais vous voyez déjà ce gymnase à Québec aujourd'hui qui est dans l'actualité, une 60aine de cas associés. On a fermé l'établissement. Vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 semaines, les gens des gyms se plaignaient dans l'espace public en disant « Franchement, on fait attention, il n'y a aucune chance que ça se produise chez nous. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour nous déconfiner? » Ben, on les a déconfinés, et puis voilà, ça explose. Alors, il y a du yo-yo, là. Moi, je n'ai pas beaucoup critiqué la démarche du gouvernement caquiste juste ici, parce que je pense que on pourra critiquer plus tard, on aura un peu de recul et on trouvera sans doute un paquet d'erreurs, mais pour le moment, je vois mal ce que j'aurais fait de mieux que moi personnellement. Mais là, j'avoue que le yo-yo, je suis critique de ça. J'aurais moins déconfiné un peu tout récemment. Là, ce soir, tout indique qu'on va nous remettre un couvre-feu plus hâtif là, plus tôt dans la soirée. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est ce qui se dit en coulisses, en tout cas. Parce que là, ça explose et on regarde le pays ontarien juste à côté de nous.
Oui, c'est pas drôle, ça.
Non, c'est pas joli.
Bah, écoutez, on va arrêter ici, sinon si on vous écoute encore, on va aller se pendre tout de suite après l'émission.
Non, on n'essaie pas ça dans toute nuit. Il reste un mois ou deux, hein, les vaccins.
Les vaccins. À la semaine prochaine, Nick Payne. Merci
avec
beaucoup.
Avec plaisir. On lâche
pas. On lâche pas, c'est la fin de l'émission. Demain, surprise, à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.